Il n'empêche que Montaigne aborde à loisir une troisième difficulté, plus aiguë encore et plus troublante. Celle que soulève, après la pluralité des mondes et la pluralité des espèces, la pluralité des cultes. L'homme est bien insensé. Il ne saurait forger un ciron et forge des dieux à douzaines. Le lecteur s'interroge. Est-ce que le dieu de la Bible et le dieu de l'Évangile font partie de ces douzaines? Question brutale à laquelle Montaigne se gardera d'une réponse directe. Seulement, dans un autre endroit de cette apologie à rebours, il écrit « Nous ne recevons notre religion qu'à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. Nous nous sommes rencontrés au pays où elle était en usage, où nous regardons son ancienneté ou l'autorité des hommes qui l'ont maintenue, où craignons les menaces qu'elle attache aux mécréants, où suivons ses promesses. Ces considérations-là doivent être employées à notre créance, mais comme subsidiaires. Ce sont les liaisons humaines. Une autre région, d'autres témoins, pareilles promesses et menaces, nous pourraient imprimer par même voie une croyance contraire. » Et comme si sa pensée pouvait encore donner lieu à quelques méprises, Montaigne l'accuse dans l'édition de 1588. Nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes périgourdins ou allemands. Alors qu'à ne consulter que la raison, en suivant la pulsion d'une nature généreuse, on ne conçoit pas que le sentiment simplement humain se brise contre nos frontières. Non parce que Socrate l'a dit, mais parce qu'en vérité c'est mon humeur, et à l'aventure, non sans quelques excès, j'estime tous les hommes mes compatriotes et embrasse un Polonais comme un Français, postposant cette liaison nationale à l'universel et commune. Sous le désordre voulu de la composition, les essais renferment, à côté d'un traité des systèmes, un véritable traité des religions qui approfondit la psychologie du quidair, de l'orgueil humain, par un examen méthodique des raisons de croire et de ne pas croire. L'humilité sincère apparaît inséparable de l'intelligence d'une relativité fondamentale. Quand je me joue avec ma chatte qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle, nous nous entretenons de singeries réciproques. Et, songeant au cannibale que Charles IX avait fait venir à Rouen, Montaigne remarque « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons d'autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. » À cet égard, la conversation des cannibales de Rouen est moins curieuse encore et moins suggestive que les écrits des premiers explorateurs du continent américain. Les contrastes font place aux rapprochements les plus déconcertants. Montaigne rappelle la parole d'Épicure pour qui, en même temps que les choses sont ici comme nous les voyons, elles sont toutes pareilles, et en même façon en plusieurs autres mondes. Ce qu'il eût dit plus assurément s'il eût vu les similitudes et convenances de ce nouveau monde des Indes occidentales avec le nôtre, présent et passé en six étranges exemples. En vérité, considérant ce qui est venu à notre science du cours de cette polis terrestre, je me suis souvent émerveillé de voir, à une très grande distance de lieu et de temps, les rencontres d'un grand nombre d'opinions populaires monstrueuses et des mœurs et créances sauvages et qui, par aucun biais, ne semblent tenir à notre naturel discours. L'énumération qui suit est singulièrement édifiante. Car on y trouve des nations n'ayant que nous sachons oui nouvelles de nous, où la circoncision était en crédit, où nos jeûnes et notre carême étaient représentés, où nos croix étaient en diverses façons en crédit. Ici, on en honorait les sépultures, on les appliquait là et nommément celles de Saint-André, à se défendre les visions nocturnes et à les mettre sur les couches des enfants contre les enchantements. On y trouva une bien expresse image de nos pénitenciers, confesseurs. L'usage des mitres, le célibat des prêtres, l'art de diviner par les entrailles des animaux sacrifiés, l'abstinence de toute chair et poisson à leur vivre, la façon aux prêtres d'user en officiant de langues particulières et non vulgaires, tradition du déluge, adoration d'un dieu qui vécut autrefois homme en parfaite virginité, jeûne et pénitence, prêchant la loi de nature et les cérémonies de la religion, et qui disparut du monde sans mort naturelle. Là encore, Montaigne a l'air de s'effrayer de ses propos comme pour en accentuer la portée. Ces vains ombrages de notre religion, qui se voient en aucun exemple, en témoignent la dignité et la divinité. Non seulement elle s'est aucunement insinuée en toutes les nations infidèles, de deçà par quelque imitation, mais assez barbare aussi, comme par une commune et supernaturelle inspiration. Et immédiatement après, le parti pris d'ironie éclate. Car on y trouva aussi la créance du purgatoire, mais d'une forme nouvelle. Ce que nous donnons au feu, il le donne au froid. Et imagine les âmes épurgées et punies par la rigueur d'une extrême froidure. Plaisante diversité. Qui se détache ainsi sur un fond admirable d'analogie. Comme la multiplicité des institutions politiques s'oppose à l'unité de la justice universelle, l'idée d'une vérité religieuse est contredite par la multiplicité des confessions qui se partagent à terre. Et qu'y a-t-il de plus propre à entretenir et à fortifier dans ce nouveau domaine la résolution d'irrésolution qui définit l'attitude du sage selon Montaigne? Du moment que les peuples, les religions se sont rencontrés en plusieurs convenances, comme sacrifice, luminaire, encensement, jeûne, offrande, il n'est pas possible d'admettre que l'un d'entre eux imagine à son profit une règle de discernement sans tomber dans le péché contre l'esprit. Il semble à chacun que la maîtresse forme de nature est en lui, touche et rapporte à celle-là toutes les autres formes. Quelle bestiale stupidité! De ce point de vue, le sujet des miracles devait retenir particulièrement l'attention de Pascal. « Que je hais, s'écrie-t-il, ce qui font les douteurs des miracles. Montaigne en parle comme il faut dans les deux endroits. On voit en l'un comme il est prudent, et néanmoins il croit en l'autre et se moque des incrédules. Et ailleurs il note « Montaigne contre les miracles, Montaigne pour les miracles. Montaigne contre, Montaigne pour. » On présume que cette manière de lire et de comprendre les essais n'aurait nullement déplu à leur auteur. Cependant, n'en concluons pas trop vite qu'il se soit mis en opposition avec lui-même, purement et simplement. La critique pour, qui d'ailleurs est appelée à entériner pêle-mêle sur les témoignages d'apparence également plausibles, miracles chrétiens et miracles païens, se borne à des généralités de caractère négatif. C'est une hardiesse dangereuse et de conséquence, outre l'absurde témérité qu'elle traîne quant à soi de mépriser ce que nous ne concevons pas. Car après que, selon votre entendement, vous avez établi les limites de la vérité et du mensonge, et qu'il se trouve que vous avez nécessairement à croire des choses où il y a encore plus d'étrangeté qu'en ce que vous niez, vous êtes déjà obligé de les abandonner. Professons donc que, suivant le titre même de chapitre auquel Pascal renvoie, c'est folie de rapporter le vrai et le faux à notre suffisance. Seulement, l'aphorisme s'applique plus évidemment encore en sens inverse. Les miracles sont selon l'ignorance en quoi nous sommes de la nature, non selon l'être de la nature. Le même thème reparaît dans l'Apologie. Combien de choses appelons-nous miraculeuses et contre nature? Cela se fait par chaque homme et par chaque nation, selon la mesure de son ignorance. Enfin, ce qu'on doit regarder comme décisif du côté où penche sa critique positive, c'est le soin extrême avec lequel Montaigne s'attache à démontrer le mécanisme de l'invention et de la diffusion des miracles. J'ai vu la naissance de plusieurs miracles de mon temps. Encore qu'ils s'étouffent en naissant, nous ne laissons pas de prévoir le train qu'ils eussent pris s'ils eussent vécu leur âge. Les premiers qui sont abreuvés de ce commencement d'étrangeté, venant à semer leur histoire, sentent par les oppositions qu'on leur fait ou logent la difficulté de la persuasion et vont calfeutrant cet endroit de quelques pièces fausses. L'erreur particulière fait premièrement l'erreur publique et à son tour, après l'erreur publique, fait l'erreur particulière. Ainsi va tout ce bâtiment, s'étoffant et formant de main en main, de manière que le plus éloigné témoin en est mieux instruit que le plus voisin et que le dernier informé mieux persuadé que le premier. C'est un progrès naturel. Le brouillard et l'équivoque qui semblent d'abord planer sur les essais ne se dissipent-ils pas? Est-ce par hasard que Montaigne s'en prend au vers fameux de Virgile sur la mort de César qu'il raille? Cette rêverie publique que le soleil porta en son front, tout le long d'un an, le deuil de sa mort et mille semblables, de quoi le monde se laisse si aisément piper, estimant que nos intérêts altèrent le ciel et que son infinité se formalise de nos menues distinctions? Pouvait-il échapper que le passage des Géorgiques trouva une réplique frappante dans les récits des évangiles sur la mort du Christ? Il était inutile de dire à qui pensait Montaigne lorsqu'il parle de Platon. Comme s'il ne suffisait pas que, par double estoc, Platon fut originellement descendu des dieux et avoir pour auteur commun de sa race Neptune. Il était tenu pour certain à Athènes qu'Ariston, ayant voulu jouir de la belle Périctione, n'avait su, et fut averti en songe par le dieu Apollon de la laisser impolue et intacte jusqu'à ce qu'elle fût accouchée. C'était le père et mère de Platon. Combien y a-t-il, demande Montaigne, des histoires de pareils cocuages procurés par les dieux contre les pauvres humains et des maris injurieusement décriés en faveur des enfants. Sans doute est-ce à propos d'Homère que Montaigne souligne la puérilité des procédés de l'exégèse, mais manifestement en vue d'applications qui dépassent l'horizon de l'Iliade et de l'Odyssée. Est-il possible qu'Homère ait voulu dire tout ce qu'on lui fait dire et qu'il se soit prêté à tant et si diverses figures que les théologiens, législateurs, capitaines, philosophes, toutes sortes de gens qui traitent science, pour différemment et contrairement qu'ils les traitent, s'appuient de lui, s'en rapportent à lui? Maître général à tous offices, ouvrage et artisan, général conseiller à toute entreprise? Quiconque a eu besoin d'oracles et de prédictions, on y a trouvé pour son fait. Un personnage savant et de mes amis, ces merveilles qu'elle rencontre et combien admirables il en fait naître en faveur de notre religion, et ne se peut aisément départir de cette opinion que ce ne soit le dessein d'Homère. si lui est cet auteur aussi familier qu'un homme de notre siècle. Et ce qu'il trouve en faveur de la nôtre, plusieurs anciennement l'avaient trouvé en faveur des leurs. Ainsi, sur les idoles de la tribu se greffent, pour en exaspérer la malfaisance, les idoles du langage, transposées du domaine profane au domaine sacré. La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. Nos procès ne naissent que du débat de l'interprétation des lois, et la plupart des guerres, de cette impuissance de n'avoir su clairement exprimer les conventions et traités d'accord des princes. Puis, brusquement, une allusion formelle aux origines littérales du ministère de l'Eucharistie et du dogme de la transsubstantiation, qui les ont rendus l'un et l'autre meurtriers pour la paix de la conscience chrétienne, pour l'unité de l'Église occidentale. Combien de querelles et combien importantes a produit au monde le double du sens de cette syllabe « hoc ». Que la théologie révélée nous laisse finalement dans le même embarras et dans la même obscurité que la théologie naturelle, cela n'a rien de paradoxal pour un pyrrhonien absolu. La peste de l'homme, c'est l'opinion de savoir. Voilà pourquoi l'ignorance nous étant recommandée par notre religion comme pièce propre à la créance et à l'obéissance. Une fois de plus, Montaigne se confirme d'un souvenir personnel. J'ai pris plaisir de voir en quelques lieux des hommes, par dévotion, faire vœu d'ignorance comme de chasteté, de pauvreté, de pénitence. À l'appui de cette thèse, l'apologie reproduit les textes classiques de l'Évangile, Saint Pierre, épître 1, chapitre 5, verset 5, Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Dieu résiste aux superbes, mais aux humbles il donne la grâce. Et de saint Augustin, Melius critur Deus nescendo, on connaît mieux Dieu en ne le connaissant pas. Témoignage d'un Montaigne catholique, mais qui serait autrement persuasif s'il n'avait tenu à les accompagner d'autorités païennes. Avant de citer Saint-Pierre, Montaigne transcrit dans l'original une phrase d'Hérodote, « Dieu ne permet pas qu'un autre que lui s'enorgueillisse ». Et pour justifier Saint-Augustin, Montaigne invoque le traité de Tacite sur les mœurs des Germains, « Sanctius est ac reverentius de actis deorum credere quam scire ». Sur le sujet de la conduite divine, il y a plus de sainteté et de respect à croire qu'à savoir. L'ambiguïté des références ne doit pas masquer le sentiment véritable de Montaigne. Il nous les est loisible de répéter « C'est aux chrétiens une occasion de croire que de rencontrer une chose incroyable. Elle est d'autant plus selon raison qu'elle est contre l'humaine raison. » Cela ne nous apporte autre chose qu'une négation radicalement dépourvue de consistance. Et Montaigne, à titre de poison ou de contre-poison, comme on voudra, prend soin de glisser cet avertissement que les choses les plus ignorées sont plus propres à être déifiées. Remarque qui trouve son commentaire dans le début du chapitre pieusement intitulé « Qu'il faut sobrement juger les ordonnances divines ». Le vrai champ et sujet de l'imposture sont les choses inconnues, d'autant qu'en premier lieu, l'étrangeté même donne crédit. Et puis, n'étant point sujette à nos discours ordinaires, elle nous ôte le moyen de les combattre. À cette cause, dit Platon, est-il bien plus aisé de satisfaire, parlant de la nature des dieux, que de la nature des hommes ? Parce que l'ignorance des auditeurs prête une belle et large carrière et toute liberté au maniement d'une matière cachée. Au fond, l'élan vers le surnaturel, parti d'une merveilleuse ivresse de l'entendement humain, amuse Montaigne bien plus qu'il l'émeut. N'y a-t-il point de la hardiesse à la philosophie d'estimer des hommes qu'ils produisent leurs plus grands effets et plus approchants de la divinité, quand ils sont hors d'eux et furieux et insensés ? Nous nous amendons par la privation de notre raison et son assoupissement. Les deux voies naturelles pour entrer au cabinet des dieux et y prévoir le cours des destinées sont la fureur et le sommeil. Ceci est plaisant à considérer. Qui ne sait combien est imperceptible le voisinage entre la folie avec les gaillards d'élévation d'un esprit libre et les effets d'une vertu suprême et extraordinaire. Personne n'a jamais été moins enclin à se perdre dans les ténèbres qu'exaltent les mystiques. Ils veulent se mettre hors d'eux et échapper à l'homme, ses folies. Au lieu de se transformer en ange, ils se transforment en bêtes. Au lieu de se hausser, ils s'abattent. Ces humeurs transcendantes m'effraient comme les lieux hautains et inaccessibles. Le plus grand philosophe et le meilleur capitaine se diminuent à ses yeux lorsqu'ils prétendent avoir forcé leurs propres conditions. Rien ne met à digérer fâcheux en la vie de Socrate que ses extases et ses démoneries. Et je ne trouve rien si humble et si mortel en la vie d'Alexandre que ses fantaisies autour de son immortalisation.